Bienvenue dans le podcast Maladies rhumatismales et One Health, une seule santé, un enjeu essentiel. Créé par Ensemble contre les rhumatismes, qui réunit la Fondation Arthritis, la Société française de rhumatologie, l'INSERM, Avisan et plus de 15 associations de patients. À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation sur les rhumatismes et maladies musculo-squelettiques du 12 octobre, One Health propose de mettre en lumière le concept « une seule santé » appliqué aux maladies rhumatismales et de voir comment passer de ce concept à des actions concrètes pour les patients dans leur prise en charge. Bonne écoute.
Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Corinne Micheli, je suis rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Claire Daïen et Françoise Alliot-Launois qui vont avec moi pouvoir discuter du thème aujourd'hui qui est One Health, donc une seule santé et l'application au rhumatisme chez nos patients. Tout d'abord, je vais laisser Françoise se présenter.
Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'une seule santé et des rhumatismes. C'est la Journée mondiale des rhumatismes. Donc, je suis aujourd'hui la porte-parole des 13 associations qui se sont alliées pour pouvoir travailler sur une enquête et travailler sur une seule santé et rhumatismes. Donc, je suis la présidente de l'association AFLAR, qui est l'association française de lutte anti-rhumatismale, et donc ravie d'être avec vous.
Claire, merci de te présenter.
Bonjour à tous. Donc, je suis Claire Daïen, je suis rhumatologue au CHU de Montpellier et très intéressée par l'impact de l'environnement sur la santé dans nos rhumatismes. Ravie de parler de ce thème avec vous aujourd'hui.
Donc, effectivement, c'est un sujet tout à fait brûlant que ce sujet One Health. Alors, tout d'abord, pour recontextualiser un petit peu les choses, nous, vous l'avez bien compris, nous sommes rhumatologues. Donc, nous avons à traiter beaucoup de patients suivis pour des rhumatismes inflammatoires chroniques. Et cela en partenariat, bien entendu, avec les associations de patients. Il faut voir que la polyarthrite rhumatoïde en France, aujourd'hui, c'est pratiquement 400 000 patients qui en souffrent. Donc, l'on doit traiter, suivre. L'autre rhumatisme inflammatoire qui est le deuxième plus fréquent, c'est la spondyloarthrite, qui correspond à peu près à 200 000 patients en France. Donc vous voyez ici, on n'a toujours pas inclus dans ces nombres de patients ceux qui sont suivis pour des connectivites, des vascularites. Donc ça représente un nombre tout à fait considérable de patients. Ces affections chroniques sont des affections que l'on dit être multifactorielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire multifactoriel ? Ça veut dire que ça implique un facteur ou plusieurs facteurs génétiques de susceptibilité et qui vont pouvoir interagir avec des facteurs environnementaux. Et c'est le paramètre environnement dont nous allons débattre aujourd'hui beaucoup avec mes interlocutrices. Le concept One Health, en fait, c'est quelque chose qui existait depuis de nombreuses années. Je pense qu'on a commencé à en parler dans les années 2000-2004. Mais clairement, la pandémie Covid a remis le phare sur ce concept, puisque c'est un concept qui considère, si vous voulez, la santé de l'homme, de l'animal et dans un contexte environnemental donné. Et clairement, après la pandémie Covid, où vous le savez, il y a eu l'implication, c'est une zoonose, donc c'est l'implication initialement des chauves-souris qui vont ensuite transmettre le virus soit à d'autres mammifères, soit directement à l'homme. Eh bien, on a pris conscience, certainement de façon majeure, de la prise en considération de ces différents aspects faisant intervenir des médecins, des personnes qui sont calées en termes de maladies animales et puis l'interaction avec l'environnement. Donc c'était un sujet brûlant, un sujet qui a été choisi par nos associations de patients pour être en phare à travers cette journée Ensemble contre les rhumatismes. Claire, peux-tu nous dire un petit peu comment pourrait s'intégrer justement, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde dans ce concept One Health ?
Alors, si tu veux bien, Corinne, je vais d'abord juste redonner des petites définitions pour qu'on parle tous de la même chose. parler de health, c'est donc parler de la santé. Il y a une définition OMS de la santé qui la définit comme un bien-être physique, mental et social. On a déjà donc une notion de l'individu dans sa globalité. Ensuite, le concept suivant qui est apparu, c'est global health, la santé globale, et donc qui va au-delà de la santé de l'individu, du traitement de la maladie, mais en parlant aussi bien sûr de la prévention et en incluant l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire que chaque personne a le droit à l'accès aux soins, et notamment toutes les populations avec des soins d'accès difficiles doivent être incluses dans cette santé globale. Et donc ensuite, le concept de One Health, c'est une définition qui cette fois n'est pas anthropocentrique. On va au-delà de l'homme, effectivement, comme tu l'as dit, l'homme étant totalement interdépendant avec son environnement, avec la planète, avec les plantes, les animaux, l'air, l'eau, eh bien, on a besoin de prendre en charge la santé de toute la planète pour espérer prendre au mieux en charge la santé humaine. Peut-être qu'on peut commencer par les résultats de l'enquête, François, si vous voulez bien.
Oui, tout à fait. Je voudrais dire que c'est la journée mondiale des rhumatismes et que les maladies rhumatismales, ce sont des maladies complexes, multifactorielles. Et comme la majorité des maladies chroniques, eh bien, de nombreux facteurs, notamment environnementaux au sens très large, peuvent intervenir dans le développement de ces maladies. Mais aussi finalement lors des poussées, et ces maladies, c'est bien sûr ce qu'on a entendu, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique, et on va parler aussi des autres maladies rhumatismales à l'occasion de cette journée mondiale. Le thème qui a été retenu cette année pour la journée mondiale et ensemble contre les rhumatismes, vous l'avez compris, c'est une seule santé dans les maladies rhumatismales. Et donc, nous avons souhaité, en effet, diffuser en amont de cet événement un questionnaire construit, évidemment, avec les patients partenaires, les patients experts, les patients ambassadeurs. Et ce questionnaire, il avait pour objectif d'apprécier la perception des patients du rôle de l'environnement en interaction, finalement, avec eux, l'être humain, si je puis dire, et à la fois dans l'apparition de leur maladie rhumatismale, et on l'a dit, dans l'évolution de cette maladie. Donc on a diffusé largement cet été, en juillet et en août, et donc on a eu des réponses nombreuses, qui étaient près de 800 réponses très rapidement, donc on était ravis de ça, et dans les profils des répondants, justement, il y a toute la complexité des rhumatismes et au-delà de la polyarthrite, de la spondylarthrite, du rhumatisme psoriasique, on voit qu'il y a l'ostéoporose, la fibromyalgie, l'arthrose, les troubles musculo-squelettiques, un grand nombre de ces maladies rhumatismales qui touchent les patients français. Et à la première question, et ça c'est intéressant comme réponse, à la première question, le concept de une seule santé, One Health, en avez-vous entendu parler? Eh bien, la très grande majorité des répondants, à 95%, ont répondu non. Donc on voit bien que c'est un domaine, finalement, une terre qui semblait inexplorée, a priori, par cette réponse. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a déjà des intrications fortes pour les malades, entre environnement, santé de la planète, les végétaux, les animaux, et évidemment, en tant qu'humains, leur maladie rhumatismale, et qu'ils ont déjà une démarche One Health. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, sur les causes, je l'ai dit, des maladies rhumatismales, il y avait une question qui arrivait tout de suite, puisque je vous l'ai dit, le questionnaire a été construit avec les patients, et évidemment, cette question est très importante pour eux. Selon vous, quelle est la part de l'environnement par rapport à la génétique, hein, bien sûr, dans le déclenchement d'une maladie rhumatismale? Et on voit qu'une minorité de répondants, c'est-à-dire moins de 15%, estime que la part de l'environnement dans le déclenchement d'une maladie rhumatismale est de moins de 25%. Donc en fait, ça veut dire qu'une majorité pense le contraire. Donc ça, c'est quand même un point central où on voit qu'en effet, l'être vivant, l'être humain en l'occurrence, atteint de maladie rhumatismale, se demande ou dit que sa maladie rhumatismale est liée au moins en partie à l'environnement. Sur les poussées dont on a parlé, qu'on a évoquées, on les a interrogées, et on a trouvé qu'en effet, lors des poussées, il y a des facteurs qui sont cités très fréquemment. Et il y a 5 facteurs qui semblent jouer un rôle dans les poussées selon le point de vue des patients. Et alors, par ordre croissant, en rôle supposé bien sûr, il y a le climat, il y a les polluants, alors polluants chimiques, polluants biologiques, il y a les infections, il y a les chocs émotionnels et le stress. Et donc on voit que déjà ce profil, en effet, et je crois que les études scientifiques dont vont parler les experts vont confirmer certains points, donc on voit que ces facteurs-là, certains sont tout à fait réels et ont déjà été démontrés au moins en partie. Et puis la deuxième chose que je veux souligner, c'est que le choc émotionnel, le stress, et particulièrement dans la vie, dans l'enfance, semble recueillir une réponse très positive pour les personnes atteintes de maladies rhumatismales. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Et puis enfin, troisième point sur le climat. Le climat semble être un facteur pour les patients de déclenchement des poussées. Et en particulier, les répondants ont cité le climat humide pour 9 personnes sur 10, donc c'est très important. Et dans une moindre mesure, le froid est aussi cité pour à peine 30% des répondants. Donc il y a ces notions-là très importantes du climat, et donc avec les changements climatiques, évidemment, on voit que toutes ces interrogations-là vont se poursuivre. Un autre point, évidemment, dont on va parler longuement, c'est l'alimentation. Et donc, c'est vrai que je crois qu'on peut peut-être en reparler un peu après, si vous êtes d'accord, pour pas dévoiler tous les résultats et laisser le débat se faire sur l'alimentation, sur l'activité physique et sur les points qu'enclenchent les patients pour lutter contre leur maladie rhumatismale.
Merci beaucoup pour nous avoir détaillé ce questionnaire. 800 patients qui ont participé, ça montre aussi l'intérêt de la communauté des patients pour ces questions d'interaction avec l'environnement et One Health, même si c'est une notion qu'ils ne maîtrisent pas forcément pour le moment. Bah, finalement, ce podcast va permettre de répondre à leurs interrogations. Peut-être pour poursuivre, Claire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, côté recherche, quelques points sur ces principaux facteurs d'environnement qui ont été mentionnés juste avant?
Oui, bien sûr. Donc, le premier qui est ressorti dans cette enquête et que vous avez souligné ici, c'est ce qui est le stress et le choc émotionnel. Donc, l'environnement, on va dire plutôt la personne dans sa globalité. Et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre d'imaginer qu'on sépare le corps et l'esprit, le stress vécu par une personne de son corps. Ça a été largement démontré que tout ce qui est stress va modifier le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire. Et donc, si on prend les exemples des maladies auto-immunes, qui représentent donc une partie des gens qui ont été questionnés, mais finalement une minorité quand on regarde les chiffres, il y a des études qui montrent qu'effectivement les traumatismes dans l'enfance sont associés à les traumatismes psychologiques dans l'enfance sont associés à une survenue plus importante de maladies auto-immunes à l'âge adulte. Un autre exemple que je souhaite illustrer ici, qui concerne probablement plus de monde, c'est les liens entre le stress et la douleur. Et aujourd'hui, il y a pas mal de recherches qui montrent clairement qu'on a un système antidouleur, on est capable d'avoir un rétrocontrôle du cerveau sur les sensations douloureuses et que ce rétrocontrôle est largement modulé par finalement les situations qu'on a rencontrées antérieurement, que ce soit des situations douloureuses ou de stress, et que la sensibilité à la douleur, le seuil douloureux, est modifié par notre histoire de vie. Ça a été montré chez l'animal, un animal qui est exposé à de la lumière, du bruit, des conditions stressante pour lui aura des seuils de sensibilité au toucher qui vont beaucoup s'abaisser. Et ceci, ça va se maintenir sur des semaines. Et donc, évidemment, quand on regarde ces études, on se dit pas du tout que c'est psychologique, que l'animal, c'est dans sa tête cette hypersensibilité. Et donc, on peut maintenant, je pense, être assez clair et que le message, j'espère, est clair pour tous les médecins. Mais cette sensibilité à la douleur, elle est générée par notre histoire de vie, par le stress. Et donc ça concerne la fibromyalgie, l'arthrose très probablement, puisque l'arthrose, beaucoup de gens ont de l'arthrose, mais beaucoup de gens n'ont pas de symptômes en face de leur arthrose. Et donc, voilà, cette partie stress environnementale a déjà un impact sur ces éléments-là. Alors, les autres éléments qui ont été mis en évidence, donc on peut commencer par le climat. Donc, la relation... climat et arthrose est connu depuis longtemps et rapporté très fortement par les patients depuis longtemps, effectivement avec les climats humides. Ça a été montré plus récemment aussi dans les rhumatismes inflammatoires, où les poussées surviennent dans les jours qui précèdent l'apparition du climat humide. Donc quand on dit que nos patients sont des, sont des climatologues en puissance, c'est vrai, donc surtout dans l'arthrose, mais dans les rhumatismes inflammatoires, on trouve ça aussi. Et puis après, il y a des prévalences de maladies qui varient en fonction de l'exposition solaire, et donc on a des gradients nord-sud, et ça, on pense que ça passe essentiellement par la vitamine D. La vitamine D qui a des propriétés immunomodulatrices, et donc quand on a moins de vitamine D, on est potentiellement un peu plus sensible à l'auto-immunité, bien qu'il soit un cercle vicieux, puisque quand on a une maladie inflammatoire, eh bien on sort moins, donc on a moins de vitamine D, on est moins exposé au soleil, etc. Donc, deuxième point sur le climat. Ensuite, vous avez parlé des polluants. Les données, il y en a de plus en plus qui sortent aussi sur les maladies auto-immunes. Bon, évidemment, le premier polluant auquel on s'expose activement ou passivement, c'est le tabac. Et donc là, il y a de fortes relations entre la survenue de la polyarthrite rhumatoïde et la survenue et le tabagisme, que ce soit actif ou passif. On a aussi montré récemment que le tabagisme passif dans l'enfance est un facteur de risque ultérieur de développer une polyarthrite rhumatoïde. Et puis, donc plus récemment, donc avec les pics de pollution aussi, ça a été montré des associations entre pics de pollution et poussée de polyarthrite. Et enfin, entre pollution, exposition aérienne à différents toxiques qui pourraient être d'exposition professionnelle et le risque de polyarthrite rhumatoïde. Donc effectivement, il y a ces éléments qui sont maintenant bien connus. Et je pourrais rajouter quand même comme élément clé, c'est qu'on sait maintenant que la polyarthrite rhumatoïde débute au niveau des muqueuses. Et ça, c'est important hein, comme illustration, c'est que la muqueuse, c'est l'endroit où l'environnement interagit avec le soi. Et finalement, c'est une inflammation à ce niveau-là, que ce soit au niveau des muqueuses pulmonaires, des muqueuses intestinales ou des muqueuses orales. Cette inflammation va être responsable d'une réaction immunitaire trop forte et d'une auto-immunité qui va conduire au déclenchement de la polyarthrite. Donc, vous voyez que l'environnement est clairement au centre du déclenchement de cette maladie. Vous aviez parlé d'infection aussi dans le questionnaire. Donc, infection, il y a pas mal de choses aussi qui montrent que l'infection peut favoriser sur certaines bactéries l'émergence d'une réaction auto-immune. Donc, il faut comprendre... ça montre toute la complexité de la recherche, que quelque part, une bactérie, on peut y être exposé, avoir un système immunitaire pas assez fort et finalement déclencher une infection. On peut y être exposé et vouloir trop réagir et au contraire déclencher une réponse auto-immune où le corps va vouloir réagir contre la bactérie mais va au-delà de ça. Et donc, ces défenses qui l'engendrent vont se mettre à réagir contre son propre corps. Ou alors, on peut avoir une réponse modérée, une barrière qui permet d'avoir de la résilience et de rentrer dans aucune de ces deux complications. Alimentation, donc on peut enchaîner sur l'alimentation, oui, si vous voulez.
C'est effectivement tout à fait. Tout à fait. Il y a des résultats très intéressants dans l'enquête, justement, sur l'alimentation. Et je pense que c'est le moment. Et la question, c'était quel type d'aliment favorise le déclenchement d'une maladie rhumatismale? Et bien, selon les répondants, parmi les aliments cités, puisqu'ils ont cité, ils ont été assez précis, en fait, on trouve en priorité les aliments sucrés ou acides, les laitages, et ça, on va en parler, parce que c'est peut-être une fausse idée, une fausse mauvaise idée. Les laitages, notamment les laits d'origine animale et notamment lait de vache. Le gluten, ça c'est un immense sujet. Les viandes et notamment les viandes rouges. Et ils ont détaillé aussi le type d'élevage et d'agriculture qui leur semblait néfaste pour leur maladie rhumatismale et qui sont évidemment les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, l'agriculture intensive, l'agriculture industrielle, qui sont mentionnés donc par plusieurs répondants, très nombreux. Et donc, ils ont parlé évidemment aussi, et là je pense qu'on sera d'accord, sur les aliments industriels transformés, voire même ultra transformés, qui sont très souvent cités. Et bien sûr, on a parlé des polluants, donc la présence des pesticides, de substances chimiques, d'additifs, de colorants, de conservateurs, c'est évidemment, ça fait partie de leur vision comme produit qui serait néfaste pour leur rhumatisme. Et donc, on voit bien que il y a dans l'alimentation une source à la fois de santé et une source d'anxiété pour les malades. Voilà, donc je pense que il y a des patients d'ailleurs qui disent, il y a des verbatims en disant j'ai changé totalement de régime alimentaire, je prends des probiotiques, j'ai arrêté de prendre de l'alcool, des boissons sucrées, j'ai modifié complètement mon alimentation, etc. Donc on voit bien que ce sujet, et on le sait, l'alimentation c'est très important. Quand évidemment on est patient, mais même quand on ne l'est pas, c'est un sujet qui touche à la santé, et donc on voit bien les préoccupations. Et quand on rentre dans les détails, il y a des idées qui sont vraies. Là encore, il y a des études, mais il y a des idées qui sont plus apparentées à des croyances. Et là, je pense qu'on peut en discuter aussi, parce que c'est important de bien s'alimenter. Et alors, pas avoir de régime privatif, on va en parler, je crois.
Je pense en effet que c'est un sujet crucial, au minimum d'interrogation des patients, au maximum d'inquiétude. Alors, personnellement, lors des consultations, quelle que soit la pathologie articulaire que des patients que je vois en consultation, à côté de la consommation de tabac et de la consommation éventuelle d'alcool ou de drogue, je demande systématiquement s'ils excluent certains aliments de leur régime alimentaire, parce que au final, et d'ailleurs c'est nos collègues, d'ailleurs Claire en fait partie, qui ont beaucoup travaillé sur les régimes alimentaires, qui nous ont aussi appris que parfois les patients n'osent pas nous en parler spontanément, parce qu'ils ont peur d'être jugés, alors que c'est pas du tout le cas. Donc je pense que pour nous, rhumatologues, c'est important, et d'ailleurs pour tous les médecins, je pense, de directement poser la question aux patients. Alors Claire, je crois que tu as participé avec la Société française de rhumatologie aux recommandations par rapport au régime alimentaire, c'est quelque chose que tu connais bien. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots autour d'alimentation et rhumatisme inflammatoire ou polyarthrite rhumatoïde plus spécifiquement?
Merci. Oui, c'est un sujet effectivement qui préoccupe beaucoup les patients. Et c'est important d'avoir des réponses à proposer. Donc, on avait fait effectivement toute la biblio sur les rhumatismes inflammatoires. Des recommandations ont également été faites dans l'arthrose. Et finalement, on va avoir à peu près les mêmes conclusions. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de preuves tangibles pour dire que ni les laitages ni le gluten sont des facteurs de risque de rhumatisme inflammatoire ou d'arthrose. À l'échelle d'une population, ça ne ressort absolument pas. Et les essais interventionnels qui ont été faits pour voir si en modifiant le laitage ou le gluten, on améliorait les symptômes des patients, sont très difficiles d'interprétation, premièrement parce qu'ils sont ouverts et que tous les patients qui sont en échec sont exclus. Donc il y a un gros biais d'interprétation. Et on peut quand même noter que dans ces essais, la réintroduction secondaire du gluten et des laitages ne s'est pas accompagnée de poussée. Donc effectivement, les preuves pour dire qu'une exclusion est à recommander sont très maigres. Et en face, eh bien, effectivement, l'exclusion délétage peut conduire potentiellement à des carences en calcium et donc aggraver un risque d'ostéoporose qui existe dans les rhumatismes inflammatoires. Et puis, l'exclusion du gluten, si elle se traduit par une alimentation qui n'est plus équilibrée, et de l'utilisation notamment d'aliments sans gluten, qui sont finalement des aliments ultra transformés, sont probablement en fait des facteurs de risque de problèmes cardiovasculaires, comme ça a été montré dans des larges populations américaines, où donc la consommation de gluten est associée à une protection du risque cardiovasculaire, une diminution du diabète, probablement parce que du coup on manque de fibres et on a ces aliments ultra transformés qui, en n'ayant pas de gluten, ont par contre d'autres choses pour compenser qui sont vraiment pas très bons pour la santé. Donc pas de preuve et potentiellement un effet délétère. Donc on ne recommande pas de régime d'exclusion. Et après, sur les effets bénéfiques, ce qui a été largement démontré, ce sont les oméga-3 qui, dans des essais randomisés contrôlés contre placebo, ont montré un effet sur les symptômes de la maladie. En termes de facteurs de risque, l'alimentation équilibrée de type méditerranéenne est protectrice. La consommation de soda sucrée augmente le risque, notamment de polyarthrite rhumatoïde. Donc ça rejoint certaines des choses qui ont été dites dans l'enquête. Donc globalement, le message, c'est un régime équilibré, riche en fibres, riche en oméga-3. Mais donc c'est une discussion que j'ai très souvent avec des patients. Il faut rester ouvert, et il faut rester à l'écoute de ses sensations. Et si sur l'échelle d'une population, on ne retrouve aucune association, si un patient rapporte une poussée à chaque fois qu'il mange certains aliments, il faut bien sûr le croire et proposer. Enfin, moi je travaille beaucoup sur le petit carnet où on note ce que l'on a mangé et les poussées, potentiellement faire des exclusions, réintroductions pour voir vraiment s'il y a des choses particulières. Voilà. Et souvent, finalement, le gluten, lorsqu'il est exclu, peut améliorer le bien-être digestif, mais de mon expérience, c'est assez rare qu'il y ait un effet sur les articulations. Et quand on parle de la polyarthrite, globalement, et ça, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans tous les questionnaires, il y a peut-être un quart des patients qui sont concernés par le fait que l'alimentation module leurs symptômes, et pour trois quarts des autres, il n'y a aucun effet. Donc voilà, on peut avoir une maladie déclenchée par différents éléments environnementaux, dans différentes muqueuses. Il ne faut pas proposer un régime pour tous, il faut savoir s'écouter, voir quel est l'effet concret chez nous, pas appliquer de recettes toutes faites. Et comme vous disiez tout à l'heure, une maladie chronique, c'est déjà contraignant, donc ne pas s'imposer des contraintes inutilement.
Claire, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu oméga-3 ?
Oui, alors j'aurais même pu en reparler après, en fait. Donc, oméga-3, les principales sources d'oméga-3 sont les poissons gras, l'huile de lin, l'huile de noix, les oléagineux, donc les noix, les noisettes. Donc ça, ce sont les principales sources, et on dit qu'il faut être autour de 1 à 2 grammes par jour, ce qui fait quand même des proportions... autour de 200 grammes, par exemple, si on prend que du poisson gras. Les sardines, c'est bien, les harengs, c'est bien aussi, donc en boîte, ça peut se faire. Mais quand on réfléchissait à One Health tout à l'heure, je me disais que effectivement, il faut regarder au-delà de juste la composition alimentaire, que je vous propose là de façon simpliste, mais par exemple, le saumon, vous allez voir que si c'est un saumon bio, un saumon d'élevage, un saumon sauvage, n'aura pas les mêmes compositions en oméga-3 et rapport oméga-3-oméga-6. Il sera potentiellement pourvoyeur d'autres problèmes avec des dioxines ou d'autres polluants qu'il peut accumuler en fonction des eaux dans lesquelles on l'a pêché, avec des grandes différences entre le saumon d'Atlantique ou le saumon du Pacifique. Et donc qui sont dus en fait à la santé de la mer, des eaux dans lesquelles ils sont élevés. Et donc là, on revient sur le concept de One Health, et donc c'est beaucoup plus compliqué que juste de parler de l'oméga-3 isolément.
Oui, merci Claire. Effectivement, c'était important de resituer ces problématiques dans leur plus grand contexte de la santé globale. Bien, donc si on veut résumer un petit peu ce qui a été dit là, à travers le questionnaire auprès des patients et puis de tout ce que tu as détaillé autour des éléments d'environnement, on voit que pas mal de choses peuvent potentiellement interagir avec certains éléments qui ont été clairement démontrés dans l'environnement comme pouvant impacter l'émergence de la polyarthrite rhumatoïde ou d'autres rhumatismes inflammatoires ou d'en favoriser des poussées. D'autres sont, comme le disait madame, plus dans le registre des croyances. Et donc, il est important, nous, comme corps médical, de bien informer nos patients. Et pour bien informer nos patients, il faut bien avoir conscience de ce qu'ils font en termes de régime et quelles sont leurs habitudes. Donc, je pense que nous allons, sur ce premier podcast, nous arrêter là et je vous invite à nous suivre sur l'épisode 2 où, en fait, maintenant que nous avons contextualisé la problématique, eh bien, nous verrons comment, de façon plus pratique peut-être, on peut arriver à moduler ces éléments d'environnement et leur impact sur les rhumatismes inflammatoires ou sur les rhumatismes au sens plus large. Je remercie Claire Dayen et madame pour son intervention, vos interventions, et puis je vous dis à tout de suite pour la suite de ce podcast.
Merci à tous, à tout de suite.
Merci beaucoup.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'Ensemble contre les rhumatismes www.ensemblecontrelesrhumatismes.org.